La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et c'est la deuxième journée à l'Hippodrome Paris-Longchamp de cette sixième édition de la REF que nous sommes ravis de vous faire vivre en direct, en replay et en podcast également. Depuis donc l'Hippodrome de Paris-Longchamp, ici dans notre studio, sur les antennes de Radio Territoria et Radio Immo, qui sont les partenaires médias de cet événement d'ailleurs comme chaque année. Et nous sommes ravis de vous faire vivre l'événement à travers les invités qui viennent nous rejoindre ici autour de cette table. Et là, je suis ravi de recevoir avec moi Delphine Maisonneuve. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du groupe Vive et de Vive 3, c'est ça ?
Absolument.
Ok, on va expliquer dans quelques instants ce que vous faites concrètement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous participiez tout à l'heure à un débat organisé par la REF sur les pouvoirs de la qualité de vie au travail. Vaste sujet, très intéressant, qui concerne notamment le domaine de la santé, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Je le disais, directrice générale du groupe Vive et Vive 3, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, c'est ça ?
Absolument, donc le groupe Vive, c'est un groupe qui travaille autour de trois grands métiers, le métier de l'assurance, santé, prévoyance, épargne, et vous connaissez probablement, vos auditeurs connaissent probablement des marques assez emblématiques de mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGN, MNT, voilà, donc ça c'est une première activité. Deuxième activité, nous sommes opérateurs de santé. Autrement dit, nous avons des crèches, nous avons des centres chirurgicaux, des centres de santé, des centres dentaires, nous avons des magasins d'optique, nous avons des EHPAD. Voilà, donc nous avons des activités vraiment tournées autour de la santé, du prendre soin. C'est 10 millions de personnes protégées au travers de nos activités d'assurance et c'est 6 millions de personnes soignées dans nos activités de soins. Puis un troisième métier qui est encore moins connu nous concernant, oui, qui est le métier du logement et notamment du logement social, puisque nous sommes actionnaires majoritaires du groupe Arcade Vive, qui est notamment le quatrième ou le cinquième opérateur de logement social, très implanté dans les territoires. Et voilà, je rejoins un peu le leitmotiv de votre radio et de vos auditeurs. On est un groupe très implanté dans les territoires, très au cœur des territoires. Aujourd'hui, plus des trois quarts de nos collaborateurs, de nos salariés, vivent, je dirais, dans les territoires. Et notre premier bassin d'emploi, c'est la région de Nantes. Voilà, donc...
OK. Bah, c'est aussi pour ça que vous êtes évidemment la bienvenue encore plus sur ce plateau. Le rôle du groupe Vive dans la création d'un modèle justement inédit de logement social, quel est-il ?
Alors, notre raison d'agir, qui est commune à ces trois métiers, c'est rendre la santé accessible à tous. Ouais. Donc, bien sûr, ça paraissait naturel quand vous souscrivez en tant qu'entreprise à une mutuelle santé, de la prévention. On voit le lien très bien. Quand on parle de soigner, on voit aussi le lien très bien. Mais le logement, c'est quoi ? C'est un lieu de santé. Le logement est un déterminant de santé. Suivant la qualité de votre logement, suivant le fait que vous ayez ou non un logement, vous avez un impact très fort sur la santé. Et donc, toute la vision des dirigeants du groupe Vive, quand ils ont lancé ce regroupement de mutuelles, c'était vraiment de dire finalement comment on peut agir collectivement plus puissamment sur les déterminants de santé. Et le logement, finalement, c'est comment on rend le logement réellement acteur ou contributeur de santé. Alors, je vous donne deux exemples très concrets. Oui. On a créé un label Logement Santé. Et donc, ce label, il consiste en quoi ? Il consiste à produire des logements qui sont bons pour la santé parce qu'ils sont bâtis avec un certain nombre de matériaux, mais parce qu'ils sont aussi efficaces en confort d'hiver qu'en confort d'été. Hein, avec les pics de chaleur, vous imaginez l'impact sur la santé. Et aussi des logements qui sont propices à déclencher de l'activité physique, c'est-à-dire des escaliers qui sont bien foutus, que vous avez envie de prendre, voilà, des petites choses. Et évidemment, des logements qui sont bons pour l'environnement, parce que l'environnement a un impact sur la santé. Donc, premier exemple, le label Logement Santé, okay, c'est vraiment un élément de production de meilleure santé. Et puis, deuxième exemple, c'est tout simplement comment on projette de la santé dans le logement. Et là, je vais donner un exemple. On a mis en place une ligne qui s'appelle Écoute Santé, qu'on peut mettre en place parce qu'on a un groupe de santé, hein, et qui vise à donner accès aux personnes qui sont logées dans ces logements sociaux, à une ligne qui leur permet de poser des questions de santé, qui permet aussi, en termes de sujets un peu urgents en matière de santé mentale, d'avoir quelqu'un au bout du fil. On est d'ailleurs souvent sollicité, pas forcément par le locataire lui-même, mais par le gardien de l'immeuble, etc. Et derrière, on peut trouver des solutions orientées. Et donc, mettre en place une ligne écoute santé à l'intérieur du logement social, c'est un point extrêmement important. Puis, dernier point, on sait que le sujet du domicile et de la capacité de maintenir les personnes âgées à domicile, c'est un sujet qui préoccupe tous les élus territoriaux, hein, tous les territoires. Et là-dessus, c'est comment on trouve un bon équilibre entre un logement qui permet d'accompagner des pertes progressives d'autonomie, comment on accompagne les personnes qui, jeunes ou moins jeunes, souffrent de troubles cognitifs sans les parquer, entre guillemets, dans des lieux qui sont loin du territoire. Bref, le logement est vraiment, à mon sens, un des éléments qui permet de favoriser la santé, la bonne santé. Et des Français en bonne santé sont des Français qui peuvent mieux vivre leur vie d'actifs, de retraités, de jeunes, et donc produire de la valeur pour l'ensemble d'entre nous.
Et donc, on peut considérer que vous contribuez finalement à l'accès au logement pour justement ces populations-là aussi, les populations les plus fragiles ?
Absolument, absolument. Donc, on a régulièrement des programmes. Alors, on répond à des projets, à des demandes des collectivités, et on va répondre à des propositions de projets d'habitat inclusif, par exemple, où on va mêler à la fois, la typologie de bâti, hein, et puis des services d'accompagnement social, médical ou paramédical qui va permettre d'accompagner ces populations et donc de leur donner accès à un habitat à la fois très intégré et en même temps adapté à leur état de santé.
À plusieurs reprises déjà au cours de cet entretien, vous avez parlé de l'intérêt qu'il y avait à créer des discussions avec les partenaires locaux, notamment les collectivités locales. Aujourd'hui, vous êtes présente sur la REF. C'est important pour un groupe comme Vive d'être présent ici sur ce type d'événement.
Absolument, et j'ai envie de dire à deux titres. Hein. Bien sûr, parce qu'on accompagne les entreprises justement dans la volonté qu'elles ont de protéger en matière de santé ou d'améliorer la santé de leurs collaborateurs. Hein, c'est nouveau. Avant, la santé, c'était un truc privé.
Oui.
Maintenant, les dirigeants d'entreprise se rendent compte qu'ils ont besoin de prendre soin au sens strict du terme de leurs collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on assure pas loin de 100 000 entreprises, donc c'est très naturel d'être présent ici à la REF. Et puis aussi parce qu'on est un gros employeur. On a 46 000 collaborateurs partout dans le territoire. Et finalement, échanger, partager avec d'autres entreprises, d'autres dirigeants ici à la REF, écouter un peu les sujets de préoccupation ou au contraire les belles histoires, les belles pratiques, c'est aussi très positif pour nous. Voilà. Donc on est là à deux titres. En tant que activité qui accompagne les entreprises et puis en tant qu'entreprise nous-mêmes.
C'est toujours très riche d'échanger.
Absolument.
Voilà. Et vous étiez tout à l'heure présente, je le disais, sur le débat organisé par la REF autour du pouvoir de la qualité de vie au travail. Justement, le groupe Vive, comment est-ce que vous mettez en place une politique de qualité de vie au travail ? Comment est-ce que vous faites pour garantir cette QVT au sein de votre groupe ? Qu'est-ce que vous faites aussi en termes de politique RSE, par exemple ?
Alors, la QVT, c'est un sujet... garantir la QVT, franchement, je n'irai pas sur cette ligne-là. C'est un sujet qui doit se prendre de manière systémique et qui, en même temps, doit se prendre vraiment très dans le quotidien des collaborateurs. C'est-à-dire penser qu'on va créer de la QVT par des grandes envolées lyriques, c'est pas vraiment ce qui fonctionne. Donc,
c'est du marketing, quoi.
Voilà. Okay. Il y a du bon marketing, mais là, en l'espèce, on n'est pas dans ce sujet-là.
Okay.
Donc, en fait, on a nous, une ambition RH au sein de notre entreprise, au sein de notre groupe qui est très décentralisé. On crée vraiment les conditions pour que chacune de nos, ce qu'on appelle nos maisons mutuelles ou activités de soins et son autonomie en fonction de son activité, travaille sur un certain nombre de priorités RH. Et sur ces priorités RH, on trouve à chaque fois des impacts en matière de QVT. Premier sujet, la diversité et l'inclusion. Je ne le fais pas dans l'ordre de priorité.
Ouais,
hein,
ouais.
Voilà. Diversité et inclusion, finalement, c'est quoi ? C'est pouvoir être pleinement soi-même au boulot. Ben, on voit bien que si on peut être pleinement soi-même, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit hétéro, qu'on soit gay, tout ça impacte, évidemment, sur la qualité de vie au travail. Si vous êtes pas à l'aise dans vos baskets au boulot, vous risquez pas, avec ce que vous êtes, vous risquez pas d'avoir ce sentiment de qualité de vie au travail. Vous avez tous les sujets autour de l'autonomie dans mon job. Est-ce que je suis en capacité de faire mon job dans de bonnes conditions ? Est-ce que j'ai une capacité à agir ? Donc toute la partie autonomisation des équipes, c'est un sujet aussi qui est un enjeu majeur dans la transformation du travail aujourd'hui. On a tous les travaux autour de l'employabilité et de la prise de conscience des salariés qu'il faut quelque part prendre en main sa propre évolution et son propre développement. Voilà, donc c'est autant de sujets sur lesquels on travaille plutôt de manière, je dirais, organisationnelle dans l'entreprise. L'accompagnement des managers de proximité, évidemment. Et puis le dernier point, qui est un point qui nous... voilà, c'est bien, je veux dire, on a un groupe de santé, ce serait quand même dommage qu'on ne se préoccupe pas de la santé de nos collaborateurs. C'est toutes les actions qu'on mène au profit de la santé de nos collaborateurs. Et c'est là que le sujet de la prévention, bien sûr, au-delà du soin et de l'accompagnement, est important. Donc, des actions très concrètes pour favoriser l'activité physique dans nos entreprises. Donc, c'est comment on aide, voire on participe, on engage nos collaborateurs à monter les escaliers. Bah, c'est bête, mais ça suffit à faire baisser le risque cardiovasculaire de manière très significative. Comment on les aide à se motiver collectivement à participer à une petite compète, voilà, le semi-marathon de Paris, l'événement à tel endroit à Nantes, souvent en partenariat d'ailleurs avec des causes qui leur tiennent à cœur. On participera, certains d'entre nous, à la course Imagine for Margot à Saint-Cloud là, dans quelques jours. Voilà, donc comment on les engage au-delà de là où on peut avoir des salles de sport, c'est surtout de dire finalement l'activité physique. On l'encourage, voilà, et ça peut se faire de plein de manières possibles. Et puis le dernier point, c'est sur la partie santé mentale, moi qui me tient particulièrement à cœur. Là aussi, un sujet qui était vu comme un sujet très privé, et sur lequel les entreprises, voilà, commencent à regarder le sujet. C'est 20% des arrêts de travail aujourd'hui en France qui sont liés à des problématiques de santé mentale. 20% des arrêts de travail. C'est absolument massif. Et donc, c'est un sujet dont les dirigeants d'entreprise doivent se préoccuper pour leurs salariés, mais aussi pour eux-mêmes. Et donc, là aussi, on pousse à mettre en place des parcours, hein, c'est pas pour l'activité physique, mais aussi pour la santé mentale. On le fait pour nous-mêmes, des parcours qui permettent d'identifier très tôt les problématiques de difficultés d'ordre de santé mentale et d'être en capacité d'accompagner nos collaborateurs. Et à ce titre, on a formé, là, sur la dernière année, plus de 300 de nos collaborateurs au premier secours en santé mentale. Voilà. Donc, c'est 2 jours de formation, c'est un investissement, à la fois pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Mais on croit vraiment que multiplier les endroits où on ouvre la parole et on est en capacité d'identifier très tôt des petits signaux faibles qui semblent laisser penser que tel ou tel collaborateur est un peu en difficulté ou ne se sent pas bien, ben je pense que c'est extrêmement, extrêmement impactant. Et ça participe au climat social, au climat en général, à l'envie de venir au boulot, parce qu'on a plaisir à rencontrer ses collègues, parce qu'on sait qu'on ne sera pas stigmatisé et parce qu'on sait qu'on pourra dire bah, « tu sais quoi, aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme voilà. ».
Et du débat, finalement, il en est ressorti quoi ? Vous avez senti que les personnes qui étaient concernées se sentaient effectivement concernées par ces sujets-là ?
Oui, alors finalement, ce qui m'a surprise, parce que finalement, c'était la partie qu'on n'avait pas anticipée, c'est le questionnement et l'attente autour de « mais le dirigeant dans tout ça ?» Et le fait de dire finalement, à la fois le dirigeant doit porter ce discours en quelque sorte, mais il doit aussi être en capacité de dire « moi, à titre personnel, je prends à cœur de prendre soin de ma santé et je prends à cœur de prendre soin de la santé de mon collectif autour de moi, de mes collaborateurs. » Et tout le sujet autour de la capacité à dire la vulnérabilité du dirigeant, d'être en capacité de dire ben ouais, on n'est pas les super-héros. Voilà. À un moment donné, on peut avoir des petits coups de mou, on peut avoir des sujets de santé. Et je pense que chaque fois qu'un dirigeant et en capacité, on a eu des cas, je dirais, autour du cancer, est en capacité de dire important de prendre soin de sa santé, important de se dépister, important de faire de l'activité physique et de bien avoir cette hygiène personnelle de santé. Ben finalement, si le dirigeant et puis les patrons autour de lui disent que c'est important de déconnecter, que c'est important de prendre soin de soi-même, ben, ça devient naturel au sein de l'entreprise. Voilà. Et c'est ce point-là que je n'attendais pas dans le débat tout à l'heure et qui est venu comme un sujet complémentaire au sujet de prévention et d'activité physique et de santé mentale. Et
vous, Delphine, vous prenez vous-même bien soin de vous ?
Je crois, oui. Alors, on peut mieux faire hein, sur l'activité physique, comme toujours. Je ne suis pas une grande sportive. mais oui, je fais très attention à la façon dont je dors, la façon dont je m'alimente. Voilà, j'ai pris une hygiène de vie où je pense que je pourrais tous les soirs sortir parce que je suis invitée à telle expo, tel machin, tel truc. Mais moi, j'ai dit, c'est mon hygiène personnelle. Ce qui est important pour moi, c'est de passer au moins 4 soirées chez moi avec Mon mari avec ma fille, j'ai encore une petite dernière à la maison. Enfin, la petite dernière, elle n'aimerait pas m'entendre dire ça, elle a 15 ans. Voilà, mon hygiène personnelle, c'est de dire 4 fois par semaine, avoir un dîner professionnel par semaine, c'est bien. Plus, ça tire trop sur la bête. Voilà. Et puis essayer au moins 3 fois par mois d'avoir un jour de télétravail. Moi, ça, une fois par semaine, plus généralement le vendredi, si je ne suis pas en déplacement, bah, je travaille à la maison. J'ai 1h30 de moins de transport. Je respire différemment. Et c'est important pour moi, même si j'adore travailler en collectif. Voilà. Ça, c'est moi, mes petites recettes. Prendre mes congés, ne pas trop sortir le soir, même quand j'ai beaucoup de sollicitations, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et puis avoir cette respiration de télétravail une fois par semaine.
Se déconnecter quand il faut. Et puis savoir répondre aux sollicitations, venir nous répondre, par exemple.
Mais absolument, absolument. Voilà. C'est une façon aussi de partager ma petite expérience de dirigeant d'entreprise. Voilà.
Mais un grand merci d'ailleurs pour ce partage.
Avec plaisir.
Un grand merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité. On continue à vous faire vivre cette deuxième journée de la 6e édition de la REF. Ça se passe à l'Hippodrome Paris-Longchamp. Et c'est en direct sur Radio Immo et Radio Territoria. Vous pouvez également nous retrouver en replay et en podcast. Merci et à très vite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.